Vous écoutez, on lit pour vous.
La caméra d'intervention, l'envers caché de la surveillance policière. Un texte de Simon Gionnet, paru le 8 décembre 2025 dans Le Devoir. On est tanné de l'impunité et on veut des caméras corporelles maintenant, lançait aux médias en septembre 2025 Francisco Fabian Castro, l'organisateur d'une manifestation à la mémoire du jeune Nouran Rezaï, quelques jours après que l'adolescent de 15 ans eût été tué par les tirs d'un policier du service de police de l'agglomération de Longueuil. En l'espace d'une décennie, l'implémentation des caméras corporelles dans les services policiers s'est imposée dans le débat public nord-américain sur la brutalité et la transparence policière. Chaque mort qui s'ajoute au bilan des civils tués lors d'une intervention au Canada comme aux États-Unis relance le débat sur leur usage et les promesses qu'on leur attribue, celle de responsabiliser les policiers en action et de les forcer à répondre de leurs actes en cas de violence ou de mort. Pratiquant le droit depuis plus de 10 ans, l'auteur américain Alec Karakatsanis entreprend de démanteler cette prémisse en exposant les revers de cette technologie dans la caméra d'intervention, un dispositif au service de la bureaucratie de la punition, paru en français au Québec, aux éditions de la rue d'Orion. Dans cet essai de la taille d'un petit manuel d'instruction, il décrit un outil d'abord pensé et voulu par la police et les entreprises de surveillance et d'armement, présenté à tort comme une solution qui amènerait plus de transparence et de responsabilité et qui, de surcroît, s'attaque aux communautés plus vulnérables. L'avocat et fondateur de l'organisation de défense Civil Rights Corps puise ses réflexions dans sa longue expérience de navigation dans le système judiciaire et carcéral des États-Unis. Une bureaucratie de la punition, écrit-il, en se référant à l'appareil répressif dont font partie le gouvernement, ses institutions et les entreprises affiliées au monde de la surveillance. Ce qu'il a vu, notamment à ses débuts comme avocat à l'aide juridique, a fondamentalement changé le cours de sa vie, dit-il. Entre injustices flagrantes, lois absurdes et conditions d'emprisonnement brutales, il a surtout constaté que l'incarcération de masse états-unienne s'est aggravée à coups de mauvaises réformes. L'intégration des caméras d'intervention est la plus récente d'entre elles, affirme-t-il. Un tournant décisif. À partir d'extraits de documents et de déclarations de chefs de police ou d'entreprises de surveillance, Alec Karakatsanis soutient que ces caméras étaient surtout vues comme un instrument privilégié pour accroître la surveillance de certains quartiers, influencer le comportement des foules durant une manifestation ou colliger des données vidéo qui pourraient faciliter les condamnations pénales ou protéger les policiers de plaintes civiles jugées non fondées. Le corps de police et les entreprises d'armement ou de surveillance les voulaient désespérément depuis longtemps, mais elle n'avait jamais réussi à obtenir les milliards de dollars nécessaires pour les déployer à l'échelle du pays, explique-t-il, jusqu'à ce qu'elle change de stratégie de propagande. La mort de Michael Brown, en août 2014 à Ferguson, qui fut tué par le policier Darren Wilson, leur a fourni cette occasion, poursuit l'avocat. Son décès secoue alors l'opinion publique et déclenche une série de violentes manifestations contre la police dans cette ville du Missouri. Le public était scandalisé et très préoccupé par la brutalité policière et voulait que quelque chose soit fait, rappelle l'avocat. Et la pression d'agir, ajoute-t-il, s'accentuait sur Washington et les États. L'avocat s'affaire à montrer que dans la foulée, les corps policiers et les entreprises du secteur, à commencer par Axon, la compagnie à l'origine du pistolet Taser, ont réorienté leur discours sur les caméras corporelles en les présentant comme une solution qui pourrait réduire la violence policière et responsabiliser les agents. Avec succès, ajoute Alec Karakatsanis, le financement de dizaines de milliers de caméras par le gouvernement de Barack Obama en 2015 insufflera d'ailleurs un élan majeur à l'industrie qui a depuis enregistré des millions de dollars de profits. De Freddie Gray à George Floyd, en passant par Breonna Taylor, la mort d'Américains noirs aux mains de la police et son instrumentalisation n'ont fait qu'accélérer le déploiement des caméras à l'échelle des États-Unis, écrit Alec Karakatsanis, bien que plusieurs études et projets pilotes remettent en doute leur efficacité. L'avocat écorche au passage plusieurs voix progressistes et les médias états-uniens qui, de l'Associated Press au New York Times, ont rarement contesté, selon lui, le discours qui présente la caméra corporelle comme un outil de responsabilisation et de transparence. Se tourner vers des valeurs communes. Il reste qu'à l'heure actuelle, plusieurs familles et communautés affectées par la brutalité policière demandent justice et croient au recours de ces caméras corporelles. Que leur répondrait l'avocat sur cette question? « C'est important de commencer par des valeurs communes », répond Alec Karakatsanis, « de se dire que nous avons cette conversation parce que nous voulons moins de violences policières, moins de meurtres commis par la police et plus d'égalité et de sécurité. » Il invite à réfléchir à des mesures plus systémiques et prometteuses qui peuvent changer les corps policiers et le système judiciaire. Une plus grande participation démocratique des citoyens dans les institutions qui assurent leur sécurité, des mesures qui rendent les policiers plus responsables ou encore davantage de ressources communautaires. Par sa brièveté, l'essai n'offre ni une analyse détaillée ni une compréhension fine des études sur les caméras corporelles aux États-Unis et comporte sa part de généralisation. Il a toutefois le plaisir de présenter l'envers peu connu de cette technologie dans le contexte où son utilisation, notamment à Montréal, revient dans l'actualité. C'était l'un des souhaits de l'avocat. « Je veux simplement que les gens qui veulent une société moins violente aient les outils nécessaires pour contrer la propagande incessante qui les entoure », dit-il. C'était la caméra d'intervention, l'envers caché de la surveillance policière. Un texte de Simon Gionnet, paru le 8 décembre 2025 dans Le Devoir.
Tombée amoureuse de son patron, payant ou pas? Un texte de Félix Lachapelle, paru le 10 novembre 2025 dans la presse. Vous trouvez votre patron séduisant? Les yeux de votre superviseur vous font oublier de répondre à vos courriels? S'amouracher de son patron peut être payant, selon une étude publiée par le National Bureau of Economic Research, NBER, à condition de rester amoureux. Et la facture peut être salée en cas de séparation. Est-ce que ça peut être payant d'avoir une relation amoureuse avec son patron? Des données finlandaises permettent à David C. MacDonald, économiste et professeur à l'Université de Colombie-Britannique et à ses co-auteurs, de répondre à cette question. Résultat? Commencer une relation avec son patron augmente, en moyenne, les revenus de la personne subordonnée de 6 %. Mais attention! Se séparer n'a pas qu'un coût émotionnel. L'étude constate qu'à la suite d'une séparation, c'est une chute de 18 % qui attend les revenus de la personne subordonnée. Une baisse qui peut être due à un changement abrupt d'emploi ou du chômage et qui n'est pas observée dans les relations d'égal à égal entre collègues, explique David C. MacDonald. Les résultats suggèrent une situation intenable après une séparation, peut-être même des mesures de représailles. Il souligne toutefois qu'il est impossible pour eux de confirmer les mécanismes exacts de la baisse de revenus, car l'étude ne regarde pas ce qu'il se passe à l'intérieur des firmes, avant et après séparation. Pour s'assurer de bien comparer des pommes avec des pommes, l'équipe de chercheurs a comparé les revenus d'individus qui ont une relation avec leur patron aux revenus d'employés qui ont également une relation avec un gestionnaire, mais qui travaillent dans une autre entreprise. La différence hiérarchique est la même, affirme David C. MacDonald. De cette façon, nous éliminons la tendance qui aurait existé de toute façon. Il s'assure également de comparer des individus avec des caractéristiques démographiques similaires. Une situation fréquente? Dans les données utilisées par les chercheurs, un gestionnaire sur 10 avait une relation amoureuse au travail, un chiffre qui ne comprend que les relations qui pouvaient être identifiées. Pour Julie Lajoie, consultante en développement organisationnel et conseillère en ressources humaines agréées, CRHA, il serait utopique de penser que les relations amoureuses au travail n'existent pas, des relations qui peuvent bien souvent complexifier l'atmosphère de travail ou devenir un fardeau pour la personne subordonnée après une séparation. C'est normal de se demander si son patron va être juste avec soi. Même s'il est professionnel jusqu'au bout des ongles, il y a une relation de pouvoir entre un gestionnaire et son employé. Elle rappelle qu'un ex-conjoint connaît un pan de votre personnalité que vos autres collègues ne connaissent pas nécessairement, ce qui peut augmenter la probabilité qu'il y ait un malaise de part et d'autre. Coût organisationnel. Mais ce n'est pas que les tourtereaux qui sont touchés par une relation amoureuse au travail. Leurs collègues le sont aussi. Ça peut créer un certain sentiment d'injustice dans la façon dont on va appliquer les règles, explique l'experte en ressources humaines. Savoir qu'il y a une personne qui a une relation privilégiée avec le patron, ça va toujours remettre un peu en cause pourquoi c'est elle qui a eu un mandat, une promotion, un client. Ça devient très délicat. Un sentiment qui semble se confirmer dans les données analysées par le professeur McDonald et son équipe. Leur étude examine aussi l'impact de relations amoureuses entre patrons et employés sur les entreprises concernées. Les auteurs observent une diminution de 14 % du taux de rétention des employés dans ces entreprises, comparativement à des firmes similaires où de telles relations n'existent pas. Cette baisse est encore plus marquée lorsque le revenu de l'employé impliqué dans une relation avec son supérieur augmente davantage. Une décision personnelle. Julie Lajoie conseille, dans la mesure du possible, de s'assurer de ne pas mélanger la relation professionnelle et amoureuse au travail avec son gestionnaire. Il faut d'abord se demander, est-ce que vraiment on veut poursuivre cette relation? Si la réponse est oui, c'est important de se demander comment on protège les deux personnes. Elle invite notamment les gestionnaires, qui seraient tentés de commencer une relation amoureuse avec un membre de leur équipe, à avoir une réflexion sur la portée future de leurs actions. Par exemple, à considérer un changement d'équipe ou de service. Elle ajoute qu'il est important de soutenir les personnes concernées en cas de rupture. Ça peut être facile de dire « c'était son choix de sortir avec le gestionnaire, il fallait qu'elle s'attende au risque d'une séparation ». La consultante rappelle que l'amour est bien souvent irrationnel. L'amour, ça ne se commande pas. Des fois, ça nous arrive, ça nous saute aux yeux. Mais je pense qu'il faut être vigilant et puis regarder un peu par en avant. Quels sont les impacts potentiels sur ma carrière? C'était « Tomber amoureuse de son patron, payant ou pas? » Un texte de Félix Lachapelle, paru le 10 novembre 2025 dans La Presse.
Le développement durable au cœur de notre économie locale. Un texte de Réanne Cooper, publié le 4 décembre 2025 dans Le Courrier. Chaque mois de novembre, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est l'occasion de mettre en lumière les idées, les projets et surtout les personnes qui font bouger nos communautés. Cette année, en Acadie de la Nouvelle-Écosse, les activités organisées par le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse et ses partenaires ont montré une fois de plus que l'entrepreneuriat peut être profondément durable, à la fois sur le plan social, environnemental et économique. La projection du film « How She Dare » a ouvert la réflexion sur le courage et la résilience des femmes entrepreneurs. Une discussion sur l'entrepreneuriat alimentaire a ensuite permis d'aborder la sécurité alimentaire à l'échelle locale, tandis qu'un 5 à 7 intergénérationnel a rassemblé des entrepreneurs de divers horizons pour échanger sur des modèles d'affaires qui font une différence dans leur communauté. Ensemble, ces événements ont démontré que l'innovation peut être à la fois économique, sociale et profondément humaine. Dans mes chroniques précédentes, cette année, j'ai parlé d'économie circulaire, de déchets qui deviennent ressources, d'entrepreneuriat durable, du leadership féminin, de l'équité, de la diversité, de l'inclusion, et ce, souvent, à travers les histoires d'entrepreneurs et d'entreprises locales. Toutes ces histoires ont un point commun. Ce sont des exemples bien concrets de ce qui se passe quand on regarde nos enjeux locaux avec une lunette durable. À l'approche du temps des fêtes, ce même esprit durable peut nous inspirer comme consommateurs. Acheter local, c'est beaucoup plus qu'un geste symbolique. C'est soutenir les familles, les jeunes entreprises, les artisans et les producteurs qui font vivre nos communautés. C'est encourager des pratiques plus responsables, réduire les distances parcourues par nos cadeaux et nos aliments et renforcer le tissu social de nos régions. Le programme provincial Nova Scotia Loyal vient d'ailleurs faciliter ses choix en mettant en valeur les produits de la Nouvelle-Écosse et en soutenant les entreprises qui souhaitent les identifier plus clairement. En clair, il s'agit d'un programme « d'acheter local », entre guillemets, qui vise à rendre plus visibles les produits authentiquement néo-écossais en partageant aussi les histoires des producteurs, transformateurs et artisans derrière ces produits. C'était le développement durable au cœur de notre économie locale. Un texte de Rhéanne Cooper, publié le 4 décembre 2025 dans Le Courrier.
La pollution atmosphérique aggrave les risques de cancer. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 14 septembre 2025 dans La Presse. La pollution atmosphérique contribue à l'augmentation des cancers, et pas seulement dans les métropoles très polluées des pays pauvres. La pollution de l'air des villes canadiennes, même si elle a diminué depuis 40 ans, peut aussi contribuer à aggraver les risques de cancer. Citation. Jusqu'à récemment, on étudiait le lien entre pollution et cancer du poumon, surtout en Asie. Fin de citation, explique le virologue Brian Oliver de l'Université technologique de Sydney en Australie, qui signait une étude sur le sujet ce printemps dans le British Journal of Cancer. Citation, il y a une dizaine d'années, on s'est rendu compte que la pollution atmosphérique avait aussi un impact dans les villes occidentales, où la qualité de l'air s'est beaucoup améliorée à partir des années 1980. Fin de citation. Risque multiplié par 2 ou 3. Il n'y a pas encore de données précises permettant de voir dans quelle mesure la pollution atmosphérique augmente les risques de cancer. Mais selon le chercheur, l'effet de la pollution est semblable à celui de l'obésité, qui fait augmenter de 2 à 3 fois les risques de certains cancers. En comparaison, les fumeurs courent 10 fois plus de risques de développer un cancer que les non-fumeurs. Citation. La pollution atmosphérique est probablement la deuxième cause de cancer du poumon dans le monde. Fin de citation, estime quant à elle Joan Schiller, oncologue à l'Université du Texas, qui publiait cet hiver dans la revue BMJ Oncology une méta-analyse sur le sujet. Elle utilise le terme « probablement » parce que les cancers dus au radon sont sous-estimés, selon elle. Le radon est un gaz radioactif, invisible et inodore, qui provient de la décomposition naturelle de l'uranium dans le sol. Il n'est pas dangereux à l'air libre, mais peut s'accumuler à des niveaux dangereux dans les espaces clos, comme les maisons, et augmenter le risque de cancer. Selon la Société canadienne du cancer, 16% des cancers du poumon au Canada sont liés à l'exposition au radon dans les maisons. Autour des autoroutes. Le risque de cancer augmente nettement chez les personnes vivant à proximité des autoroutes, surtout dans les 100 mètres voisinant des voies rapides où circulent beaucoup de camions brûlant du diesel. Citation. À 400 mètres, soit en hauteur, soit à l'horizontale, le risque devient plus faible. Fin de citation, relève Brian Oliver. Le problème, poursuit-il, c'est que les logements à proximité des voies rapides sont souvent moins chers et attirent les jeunes couples en âge d'avoir des enfants. Et pour les enfants, la pollution atmosphérique a d'autres conséquences médicales, en plus d'augmenter les risques de cancer. Les cancers liés à la pollution atmosphérique concernent surtout les poumons et les voies respiratoires, tête et cou. Mais de nouvelles études montrent que les particules fines de la pollution, surtout celles qu'on désigne par le terme PM2,5, peuvent migrer dans le sang et affecter d'autres organes, détaille la docteure Schiller. La pollution atmosphérique pourrait aussi être liée à un mystère récent de la santé publique, la hausse des cancers du poumon chez les jeunes qui fument beaucoup moins que les générations précédentes. Cette augmentation n'a pas été documentée par une étude scientifique, mais plusieurs médias en ont fait état. Le virologue Brian Oliver confirme, citation, « On pense que la pollution atmosphérique pourrait jouer un rôle. Oui, l'air des villes occidentales est plus propre qu'avant, mais il y a de plus en plus de gens dans les villes. » Fin de citation. La Dr Schiller, de son côté, estime que certains cancers du poumon d'avant l'an 2000 pourraient avoir été non détectés et causés par la pollution atmosphérique. Il se peut qu'on ait détecté ces cancers seulement après des métastases dans d'autres organes, selon elle. Quelles sont les prochaines questions auxquelles la recherche scientifique devra s'attaquer? Citation. On veut comprendre le mécanisme qui lie la pollution atmosphérique, notamment les particules fines, au cancer. Fin de citation, répond la Dr Schiller. Source Statistique Canada. 60% proportion de la population canadienne qui habitait des villes en 1961. 74% proportion de la population canadienne qui habitait des villes en 2001. 82% proportion de la population canadienne qui habitait des villes en 2021. C'était « La pollution atmosphérique aggrave les risques de cancer », un texte de Mathieu Perrault, paru le 14 septembre 2025 dans La Presse.
Inoffensifs, mes implants? Faire la lumière sur les prothèses mammaires. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 25 novembre 2025 dans Le Devoir. Après s'être fait retirer ses prothèses de sein en 2023, en raison de risques accrus de cancer, la médecin de famille, Isabelle Gaston, plaide pour un registre national des implants mammaires qui permettrait d'aviser rapidement les femmes en cas de problème. Dans son nouveau documentaire, intitulé « Inoffensif, mes implants », la docteure Gaston raconte d'abord sa propre expérience. En 2008, elle s'est fait poser des implants mammaires macro-texturés de la compagnie Allergan. Mais quelques années plus tard, j'ai appris que mes implants mammaires pouvaient me rendre malade. Non seulement ils pouvaient me rendre malade, mais ils pouvaient me donner le cancer, relate-t-elle à l'écran. Ces prothèses d'Allergan ont effectivement été retirées du marché en 2019 en raison de risques accrus de cancer du système immunitaire. Or, Isabelle Gaston affirme ne jamais avoir été contactée par un médecin à ce sujet et avoir découvert cette information par hasard, quelques années plus tard. J'ai vraiment un sentiment d'injustice de ne pas avoir été mise au courant, de me dire que je ne vaux même pas un téléphone, dit-elle. Pour la docteure Isabelle Gaston, il n'était pas question de rester exposée à un danger potentiel. Longtemps, j'ai voulu mourir, dit-elle, en référence au drame de 2009 quand son ex-conjoint Guy Turcotte a tué leurs deux enfants. Aujourd'hui, elle est toutefois mère d'un petit garçon nommé Xavier et sa vision de la vie a complètement changé. Ce n'est pas vrai qu'une fois que j'ai retrouvé du bonheur avec Xavier, que là je vais perdre ma santé, confie-t-elle, la voix nouée par l'émotion. Favorable à un registre. En 2023, la médecin de famille a donc décidé de se faire retirer ses implants mammaires. Elle a cependant continué de s'intéresser à la question après l'intervention. Mon but n'est pas d'énerver les gens. Mon but, c'est de faire un consentement éclairé pour que les gens soient libres quand ils prennent leurs décisions, affirme-t-elle. Au Québec, entre 8 000 et 8 500 femmes se font poser des implants mammaires chaque année, que ce soit à des fins reconstructives, esthétiques ou pour remplacer des prothèses existantes, souligne-t-on dans le documentaire. À ce jour, il n'existe toutefois aucun registre canadien permettant de suivre les femmes porteuses d'implants et de les informer en cas de problème lié aux prothèses. Pourtant, cette mesure serait bénéfique pour les patientes, tant pour leur santé que pour la recherche et le suivi, indique le Dr Georges-Emmanuel Salib, président de l'Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec, dans le documentaire. Interviewé à l'écran, le rhumatologue albertain John Willem Gohan, T-Vert, est du même avis. C'est étrange que, lorsque votre voiture ne fonctionne pas bien, il y a un rappel immédiat grâce à l'existence d'un bon registre, mais que, si vos implants mammaires posent un problème, il n'y a aucune possibilité de rappel qui soit fiable. Dans le documentaire, Santé Canada affirme avoir mis sur pied un comité chargé d'évaluer la possibilité de créer un registre. Reconnaissance officielle? Dans sa quête, la docteure Gaston a rencontré plusieurs femmes qui, sans en avoir la certitude, croient que leurs implants leur causent des problèmes de santé. Elles ont choisi, comme moi, de se faire retirer leurs implants. La médecin de famille relate qu'avant de se faire retirer les implants, elle éprouvait elle-même au quotidien divers symptômes comme des doigts enflés, des frissons et une faiblesse dans les jambes. « Je me suis vraiment améliorée après l'opération », témoigne-t-elle. Sur son site, Santé Canada explique que le terme « maladie des implants mammaires » est utilisé pour décrire divers symptômes ou maladies chez des personnes ayant des prothèses de sein. Les symptômes signalés sont, entre autres, de la fatigue, de la douleur ou une raideur articulaire ou encore des problèmes de mémoire ou de concentration. Des maladies auto-immunes qui surviennent lorsque le corps s'attaque par erreur à des cellules, à des tissus ou à des organes sains ont aussi été rapportées. À l'heure actuelle, Santé Canada ne reconnaît toutefois pas la maladie des implants mammaires comme un diagnostic médical. Il explique qu'après l'analyse des rapports reçus, il n'a pas été possible de déterminer si les implants étaient la cause des symptômes ou des maladies rapportées. Pourtant, selon le docteur John Willem Cohen-Turvert, ce n'est qu'une question de temps. Dans 50 ans, tout le monde reconnaîtra qu'il existe un lien entre les implants mammaires et les maladies liées aux implants mammaires. J'en suis convaincu. C'était Inoffensif mes implants, faire la lumière sur les prothèses mammaires, un texte de Florence Morin-Martel, paru le 25 novembre 2025 dans Le Devoir.